Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moodstep pour un nouvel épisode où aujourd'hui nous allons parler d'analytique RH avec Renaud Gaucher, un sujet que je ne connais pas, que nous allons découvrir ensemble, et c'est tout l'intérêt de ce podcast, c'est d'apprendre, en tout cas moi c'est une de mes motivations premières, apprendre pour enrichir ma propre pratique, pour développer et perfectionner les turbines à bonheur. Alors les turbines à bonheur, c'est un jeu de cohésion d'équipe qui est basé sur la connaissance de soi en coopération avec les autres pour de grands groupes de plus de 50 personnes, le record étant de 350 personnes, un record ne demandant qu'à être battu, et sur des périodes de 1h30 à 3h. Et mon souhait en partageant ces conversations, c'est qu'elles puissent aussi être une source d'inspiration pour vous, pour votre propre vie professionnelle. Donc, on se lance pour un nouvel épisode avec Renaud Gaucher pour parler d'analytique RH. Bonjour Renaud.
Bonjour Johanna.
Je suis très heureuse de te recevoir pour ce podcast. Ça fait longtemps que je vois ton travail, notamment sur le bonheur, mais aujourd'hui, c'est pas de bonheur dont on va parler. C'est d'un sujet auquel je ne connais strictement rien, donc c'est la découverte la plus totale. Et le sujet est comment utiliser l'analytique RH pour résoudre les questions managériales ou RH. Mais avant qu'on aille dans ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Déjà, merci de me recevoir dans ton podcast. Je ne sais pas si c'est le mot recevoir qu'il faut utiliser, mais je vais utiliser celui-ci. Je m'appelle déjà Renaud Gaucher, je suis économiste du bonheur, je suis un spécialiste en fait plus précisément de la science du bonheur et de ses applications à l'entreprise, à l'économie et aux politiques publiques. Je suis à la fois consultant et chercheur associé au centre de recherche en économie du bonheur de l'université Erasme de Rotterdam, et d'ailleurs là je te parle depuis Rotterdam.
Ça ma s'entend, thèse porte... ça grésille.
ma thèse porte sur le bonheur au travail des employés et la performance financière de la firme. Et je suis habitué à utiliser des méthodes, pour cela, des méthodes quantitatives. Et ces méthodes quantitatives, lorsqu'on les applique à plein de sujets RH et managériaux, c'est ce qu'on appelle l'analytique RH.
Ah, d'accord. Donc c'est la synthèse, tu veux dire, de tout ce que tu as fait avant ?
Alors, non, en fait, c'est... moi, ma spécialité de base, c'est effectivement la science du bonheur et ses applications. Ma façon de faire lorsque je travaille sur le bonheur au travail et la performance financière de l'entreprise, c'est d'utiliser des méthodes quantitatives. Et en fait, cette approche-là, qui est d'utiliser, d'avoir une approche scientifique et d'utiliser des méthodes quantitatives, lorsque on la généralise au monde des ressources humaines et à la question du management, eh bien, on parle le terme qu'on peut utiliser pour parler de ça, c'est analytique RH. L'analytique RH, c'est le fait d'utiliser à la fois une approche scientifique et une approche quantitative pour trouver des solutions, pour trouver les meilleures solutions à des questions RH ou managériales. Alors, ça peut être effectivement la relation entre bonheur au travail et performance. Alors, performance financière, mais ça peut être aussi d'autres formes de performance. Mais ça peut être également bien l'engagement au travail, ça peut être la performance, la productivité, ça peut être le recrutement, ça peut être les promotions, les hauts potentiels. Ça peut être aussi le turnover volontaire, c'est-à-dire par exemple une entreprise qui a beaucoup de turnover, ce qui a pour conséquence de générer beaucoup de coûts, eh bien se demander d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de turnover volontaire. Et là, on peut mettre en place une approche d'analytique RH qui va être tout simplement d'essayer de voir déjà dans la recherche ce qui est dit sur le turnover volontaire, c'est-à-dire qu'est-ce que le turnover volontaire, pourquoi on peut trouver du turnover volontaire en masse dans une entreprise. À partir de là, on va se demander comment on peut mesurer ça. Alors, comment on peut mesurer ça avec les données qui existent dans l'entreprise déjà, et voir si on peut faire quelque chose, on peut répondre déjà avec les données qui existent. Et si on ne peut pas, ou si l'entreprise est prête à récolter d'autres données, eh bien, on va se demander ce que peuvent dire ces données-là, utiliser des modèles statistiques pour voir, pour découvrir à travers ces données quelles sont les principales raisons du turnover volontaire. Et à partir de là, lorsqu'on a de l'information pertinente, de qualité scientifique et quantitative, on a de l'information pertinente pour pouvoir ensuite agir. Donc ça, c'est un exemple que j'ai un petit peu développé, mais en fait, dès qu'il y a une question RH ou managériale, même des questions auxquelles on ne pense pas forcément, parce que ça parle par exemple le lien entre chronobiologie et productivité, eh bien, on peut avoir une démarche scientifique et quantitative, c'est-à-dire une démarche d'analytique RH, pour essayer d'apporter au management la meilleure information possible. Et puis ensuite, c'est à eux de faire leur choix, de savoir si, à quel point ils vont suivre ou pas l'information qui leur aura été apportée.
En fait, ce que j'entends, moi, c'est que il y a une première phase qui utilise les statistiques, donc c'est de la statistique, de ce que je comprends. Et une deuxième phase qui est plus dans le questionnaire qualitatif, dans la compréhension de pourquoi cette statistique.
Alors, sur les phases d'abord, avant même de parler statistiques, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que c'est pas de simplement un travail d'être expert en analytique RH, c'est pas seulement être un data analyst. Ou un data scientist. Avant ça, il y a un travail qui est un travail tout simplement de chercheur, qui est imaginons, il y a une intervention en entreprise, une entreprise qui a un problème. Alors, je vais parler de turnover volontaire, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Ça pourrait être, par exemple, une entreprise qui se pose la question, comme ça s'est posé en Suède. Faut-il faire travailler ses employés 6 heures par jour ou 8 heures par jour? Qu'est-ce qui va être le mieux à la fois pour leur bien-être et en termes de performance? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tout d'abord, on va un expert en analytique RH va déjà regarder ce que l'entreprise a comme données, voir comment ces données sont construites. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui croient que construire un bon questionnaire, c'est facile. Et en fait, construire un bon questionnaire, ne serait-ce qu'un questionnaire sur l'engagement au travail, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de difficultés. Et lorsqu'on peut regarder des données qui sont des données d'entreprise, eh bien, entre ce que les entreprises veulent mesurer et ce qu'elles mesurent réellement, il peut y avoir une différence. Donc, si on prend en termes de phase, d'abord, il y a une première phase où on regarde les données qui sont l'entreprise, où on regarde aussi ce que dit la recherche scientifique sur le sujet.
Est-ce que tu aides à cette phase à poser la question, à trouver la bonne question?
Après, je pense que l'entreprise arrive avec ses questions.
D'accord.
Et un expert en analytique RH, avec ce qu'il sait, peut aussi avoir proposé une autre façon de voir les questions, ou simplement dire que avec la base de données, on peut peut-être répondre à des questions auxquelles il n'avait pas forcément pensé, ou alors simplement dire que la base de données ne permet pas de répondre à la question.
D'accord. Ce n'est donc pas un nouveau modèle, l'analytique RH.
En fait, l'analytique RH, c'est quelque chose qui, en France, c'est quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui est en plein développement aux États-Unis. C'est quelque chose aussi qui, pour les chercheurs, n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les chercheurs qui font de la recherche en management, en ressources humaines, ceux qui sont dans des approches quantitatives, font de l'analytique RH. Et aussi, on voit dans la presse, on voit des fois apparaître des études réalisées par certaines entreprises Je pense notamment lorsque Google avait sorti une étude sur le fait que l'élément essentiel pour une équipe performante, c'était la gentillesse. Eh bien, en fait, derrière ça, derrière ce résultat-là, il y a une démarche d'analytique RH. Donc, l'analytique RH, c'est quelque chose qui peut sembler nouveau en France. C'est quelque chose qui l'est beaucoup moins au niveau des entreprises lorsqu'on traverse l'Atlantique et qui l'est encore moins lorsqu'il s'agit de recherche, puisque la base de la recherche en ressources humaines, en management, en psychologie, c'est de l'analytique RH.
Mais alors après, pour moi, il y a la question des données qui vient. Je pense à un sujet dont on avait parlé sur le bonheur. Je sais qu'il y a plein d'études qui sont faites sur les mêmes bases, études quantitatives, qualitatives, qui tendraient à montrer, ou en tout cas, j'entends beaucoup de gens le dire, que le bonheur favoriserait la performance en entreprise. Et je crois que t'es pas tout à fait d'accord, et d'où ma question un peu poil à gratter, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux données? Est-ce que c'est pas trop désincarné?
S'il n'y a pas les données, il y a qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est-à-dire que finalement, s'il n'y a pas les données,
Alors
ça va être.
qu'est-ce qui fait que des gens qui font le même métier ne trouvent pas les mêmes résultats, tu vois, ne trouvent pas les mêmes résultats, ou bien l'un va nous dire que le bonheur agit pour la performance et l'autre autre chose, donc à qui se fier en fait?
Sur la question spécifique du bonheur au travail et de la performance, qui est mon domaine de spécialité, pour moi, il y a une vraie différence entre ce que racontent les consultants et puis ce que peuvent raconter des chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des études qui peuvent sortir de la part de cabinets de conseil. Je suis pas sûr que les études soient forcément bien faites. Et puis il y a l'autre point aussi, c'est que en fait, d'une entreprise à l'autre, ça peut être normal que, ou même d'un service à un autre, ça peut être normal que les résultats soient pas les mêmes. C'est-à-dire que ce qui distingue le conseil, on va dire old school, et le conseil en analytique RH, c'est qu'en analytique RH, on est donc basé sur des chiffres, sur la construction déjà de variables qui sont bien construites, ensuite sur l'utilisation de modèles statistiques qui peuvent être des modèles statistiques simples ou des modèles statistiques complexes. Et en fait, lorsqu'on se retrouve en face de données, on n'a pas forcément toujours les résultats que l'on espère avoir. Et on peut donc ainsi trouver que dans une entreprise, il peut y avoir une relation entre bonheur au travail et performance. Et dans une autre, on peut trouver que, il n'y a pas de relation entre bonheur au travail et performance. Et dans une autre encore, on peut trouver une relation négative entre bonheur au travail et performance. Et c'est tout l'intérêt d'une approche d'analytique RH, c'est tout simplement en tout cas en entreprise, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement même de l'entreprise. C'est-à-dire que le problème avec toutes ces études dont on parle sur bonheur au travail et performance, outre le fait que il peut y avoir des soucis dans la manière dont sont faites ces études, c'est-à-dire que on mesure pas forcément le bonheur, on mesure pas forcément la performance, c'est pas forcément bien fait. Outre ce problème-là, il y a le fait que une étude qui est valable dans une autre entreprise n'est pas forcément valable dans ton entreprise à toi. Donc c'est pas parce que dans l'entreprise du voisin, il y a tel résultat que forcément on peut considérer que c'est vrai aussi pour son entreprise à soi. Quand je vois sur LinkedIn par exemple des études où on dit oui, le bonheur au travail, ça va augmenter de 30% la performance de vos employés, d'abord je me dis bon, ok, comment ces résultats sont obtenus? C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, le plus important, ce n'est pas les résultats, c'est comment on arrive aux résultats. C'est savoir quelle est la qualité de la méthode. Savoir si il n'y a pas eu un traitement statistique un petit peu biaisé pour faire en sorte d'avoir de jolis résultats. Et puis après, il y a cette idée que finalement, ce n'est pas parce que chez le voisin, si l'étude est bien faite, c'est pas parce qu'il y a 30% de performance en plus chez les voisins qu'il y aura forcément 30% de performance en plus dans son entreprise. Il peut y avoir des cultures différentes, il peut y avoir des caractéristiques socio-démographiques différentes, il peut y avoir des secteurs économiques différents, il peut y avoir un management différent. Donc, c'est en fait tout l'intérêt de l'analytique RH, c'est de s'adapter à chaque entreprise. À partir du moment où l'entreprise a suffisamment d'employés, c'est-à-dire que pour une démarche d'analytique RH, on ne peut pas avoir une démarche d'analytique RH dans une entreprise qui a moins de 30 employés. Et je ne suis pas sûr que ce serait très pertinent d'avoir une démarche d'analytique RH dans une entreprise qui a 40 employés. Mais par contre, dans une entreprise qui a 500 employés, 1000 employés, ou encore plus, hein, 10 000, 100 000, plus il y en a, mieux c'est, une démarche d'analytique RH, quelle que soit la question dont on se pose, là on parle effectivement de bonheur au travail, mais ça peut être des questions d'engagement au travail, ça peut être des questions de turnover, ça peut être le fait de savoir si le changement dans la culture managériale qu'on est en train d'impulser a vraiment un impact positif. Eh bien, l'intérêt d'une démarche d'analytique RH, c'est vraiment, un, d'avoir une démarche scientifique, c'est-à-dire d'apporter de l'information de qualité scientifique, et pas du blabla. Je suis désolé de parler comme ça, des approches qui sont des approches non quantitatives, ou alors des approches quand il y a des approches pseudo-quantitatives où la démarche n'est pas rigoureuse, mais une démarche d'analytique RH apporte la meilleure qualité dans l'information et l'information la plus adaptée. C'est-à-dire une information qui est adaptée à son entreprise et pas à l'entreprise du voisin. Et quand tu dis, oui, il y a plein d'études qui vont dans plein de sens différents, bah, le problème de ces études-là, c'est un, toutes les études ne sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire que si on prend par exemple sur le bonheur au travail, ce n'est pas forcément toujours très bien opérationnalisé dans les études. Alors, en général, même pour dire les choses clairement, c'est mal opérationnalisé. Et puis il y a le fait que d'une entreprise à une autre, ça change et c'est normal.
Ouais, c'est comme l'individu.
Oui, c'est d'une personne à l'autre, effectivement. C'est pas parce que une solution est bonne pour une personne qu'elle sera forcément bonne pour l'autre.
D'ailleurs, parfois la psychologie positive peut être perçue comme ça, comme un sac à recettes qui s'appliquerait à tout le monde. Comment on utilise, toi qui es un spécialiste de la psychologie positive, comment on utilise la psychologie positive sans que ce soit pas le même outil pour tout le monde?
Ça peut être aussi une question, par exemple, si on utilise la psychologie positive en entreprise, ça peut être aussi une approche d'analytique RH. C'est-à-dire que, peut-être que je vais être, si je commence à parler de variance, je vais peut-être commencer à être un peu technique. Alors, je vais essayer de trouver une façon simple d'expliquer les choses. Si, de manière régulière, on quantifie certaines caractéristiques d'une même personne, eh bien, on va avoir petit à petit des données sur cette personne-là. Et on va pouvoir avoir une démarche d'analytique RH qui va être centrée uniquement sur cette personne-là. Et qui sera adaptée à cette personne-là. Et on pourra donner à cette personne-là de l'information sur elle-même. Mmh. Mais par contre, pour avoir cette information-là, il faut avoir un certain nombre de données dans le temps. Effectivement, avec deux collectes de données, on peut faire quelque chose. Mais c'est mieux d'en avoir un petit peu plus.
Ça fait penser à l'étude de Monsieur Vaillant, là, sur 75 ans, avec des diplômés de Harvard.
Alors, je vois l'étude dont tu parles, oui.
Et que, en fait, ils ont suivi les individus pendant de leur jeunesse à leur vieillesse et ont récolté pas mal de données. Et on pourrait faire, donc, de l'analytique RH avec ça?
Oui, c'est comment dire, l'analytique RH, c'est juste, ça, enfin, c'est un mot juste pour qui utilise. Alors, en fait, ça vient des États-Unis où on parle de HR Analytics, Human Resource Analytics. Mais en fait, c'est juste l'application d'une démarche scientifique pour avoir une information de qualité sur des questions qui sont des questions de RH et managériales. Et là, dans l'étude dont tu parles, bien, c'est une étude sur la science du bonheur, dans le cadre de la science du bonheur. Et c'est une étude qui a débuté il y a très, 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 très longtemps, qui a été menée sur des décennies et des décennies. Et bien, en fait, les chercheurs ont collecté régulièrement des données. Et puis après, avec ces données-là, ils utilisent ces données avec des modèles statistiques et ils en tirent des résultats. Mais ces résultats-là, ils sont vrais pour l'échantillon de l'étude. Il y a toujours cette envie de vouloir généraliser. Au niveau scientifique, si on est rigoureux en termes scientifiques, on ne peut jamais généraliser. Après, c'est vrai que s'il y a plein d'études qui disent la même chose, on peut imaginer que si on fait une nouvelle étude, on va avoir la même réponse. Mais ce n'est pas forcément sûr, il n'y a pas de certitude à 100%. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 études qui auront été faites dans le passé qui diront la même chose qu'en faisant une 11e étude, on aura forcément les mêmes résultats. Sur la question, par exemple, du bonheur au travail et de la performance, par exemple, récemment, j'ai vu passer une étude, alors ce n'est pas une étude récente, hein, mais j'ai vu passer une étude où on voyait que les employés les moins heureux étaient ceux qui réalisaient la performance financière la plus importante. C'était une étude, je crois, qui était chez les coiffeurs, si je me souviens bien. C'est-à-dire la capacité, les coiffeurs qui étaient moins heureux au travail étaient ceux qui vendaient le plus de produits aux clients. Mais ça, cette étude-là, c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui possède une entreprise de coiffure qui écoute le podcast, il ne faut pas qu'il imagine que forcément dans son entreprise, ça fonctionnera comme ça. S'il veut savoir comment ça fonctionne dans son entreprise, il faut qu'il fasse une étude analytique RH.
Alors justement, donc ça s'adresse à tout le monde. Qui est-ce qui commande une étude d'analytique RH dans l'entreprise?
Alors aujourd'hui, pas grand monde.
C'est bien d'être honnête.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quelque chose qui est très peu développé. J'ai écrit un petit livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'intitule « Comment faire gagner de l'argent à votre entreprise avec l'analytique RH ». J'ai tapé analytique RH sur un site très connu où on vend des livres. Mon livre était le seul livre écrit en français sur le sujet.
Je vais le mettre en lien dans l'article, ton livre.
Avec plaisir, avec plaisir. Mais après, lorsqu'on va aux États-Unis, il y a beaucoup plus de livres qui sont sortis. Il y a peut-être 6, 7, 10 livres qui sont sortis sur le sujet, qui sont sortis ces dernières années. Donc c'est quelque chose de, même aux États-Unis, c'est quelque chose de récent, mais qui prend beaucoup plus d'ampleur qu'en France, où il y a une vraie différence entre l'utilisation des statistiques et des mathématiques sur des questions qui n'ont pas de lien avec les ressources humaines et les management, et puis sur l'utilisation de statistiques et des statistiques et des mathématiques sur des questions qui sont des questions liées aux ressources humaines et au management. Mais je pense que ça va venir. J'étais en
discussion. Début de la vague.
C'est le tout début de la vague. J'étais en discussion avec une entreprise qui propose aussi des services en analytique RH. Et le responsable de cette entreprise pensait que effectivement c'était ça va commencer, ça va commencer à arriver en France. Le souci avec la France, c'est que souvent il y a beaucoup de retard par rapport à tout ce qui se fait, tout ce que la recherche peut apporter. aux entreprises. En règle générale, la France fait partie des derniers pays du monde occidental à
Mais
bénéficier.
Renaud, après ce podcast, cette ère est finie.
Peut-être,
Car
peut-être, on verra.
c'est le début de la vague, elle est ici, le début de la vague, et elle est avec le questionnaire. Il y a un questionnaire qui est commun à toutes les interviews, et est-ce que tu es prêt pour répondre aux questions?
Alors, en fait, je ne me suis pas préparé aux questions, donc j'espère ne pas être trop mauvais.
Ah, il n'y a pas
Mais
de souci.
vas-y.
Est-ce que tu as eu un échec dans ta vie qui t'a particulièrement enseigné sur toi-même, sur le monde?
Oula, alors comme je suis quelqu'un qui essaie beaucoup, j'ai beaucoup d'échecs. Parce que lorsqu'on essaie, ben voilà, en règle générale, on se loupe. Je vais te parler d'un. C'est pas un échec, c'est en lien avec l'analytique RH, c'est-à-dire que c'est la première fois où j'ai une approche d'analytique RH, c'était sur des questions de bonheur au travail et de performance financière. Et comme j'étais dans l'idée que le bonheur au travail, ça favorisait forcément la performance et que ça allait forcément favoriser la performance financière, et que en faisant des mesures dans une entreprise, j'allais forcément rapporter à l'entreprise des millions d'euros. Et ça a été en fait, donc j'ai fait mesures, tout ça, niveau scientifique, avec l'aide avec l'aide du conseil de chercheurs. Je me retrouve ensuite avec mes statistiques, j'utilise mes modèles statistiques pour tirer de l'information pertinente. Et là, je m'aperçois que le lien entre le bonheur au travail et performance financière est très, 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 très mince. Et ça a été une très grande école d'humilité et aussi un très grand apprentissage que je conseille à beaucoup de consultants qui disent un peu n'importe quoi en promettant que le bonheur au travail, ça favorisera forcément la performance. C'est que lorsqu'on se retrouve avec des données, qui pourtant avaient été, j'avais utilisé des questionnaires de niveau scientifique, c'est-à-dire pas des questionnaires écrits à la va-vite par des cabinets de conseil. Et lorsque je me suis retrouvé face à ces données-là, et j'essaie un modèle et ça marche pas. Enfin, ça marche pas. J'ai pas les données, j'ai pas les résultats que je souhaitais, c'est-à-dire que j'ai pas de résultats pour montrer comment on peut faire gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Alors j'essaie un autre modèle et un autre modèle. Comme j'ai mon petit réseau de chercheurs avec des gens qui peuvent être plus compétents que moi sur certains sujets, et puis dans ces cas-là, on connaît des gens qui sur certains points sont plus compétents que soi, on leur pose des questions. C'est un moyen de s'améliorer. Je leur pose des questions. On me dit, voilà, tant que ça comme traitement statistique, tac, tant que ça comme autre traitement statistique, je tente, ça change rien. Et puis à un moment, voilà, il faut se rendre à l'évidence que, en tout, pour cet échantillon-là, dans cette entreprise-là, et j'insiste bien, hein, c'est-à-dire que ce que je raconte, ce n'est pas valable pour les entreprises, c'est valable pour l'entreprise dans laquelle j'étais, pour l'échantillon étudié, au moment où c'était étudié, il y avait. Je trouvais des moyens pour améliorer le degré de bonheur au travail. Je trouvais des moyens pour améliorer la performance financière. Mais je ne trouvais pas de moyens pour améliorer à la fois le bonheur au travail et la performance financière. C'est-à-dire que je ne trouvais pas de moyens communs. Pour essayer de dire les choses de manière un petit peu différente, je trouvais des boutons où on pouvait appuyer pour améliorer le bonheur au travail, je trouvais des boutons où on pouvait appuyer pour améliorer la performance financière, mais je ne trouvais pas de bouton où en appuyant, on améliorait simultanément le bonheur au travail et la performance financière. Or, c'était la promesse que j'avais fait aux personnes qui m'avaient embauché, et je n'ai pas pu tenir ma promesse. Et c'est là vraiment ce qu'on voit vraiment l'intérêt d'une approche d'analytique RH, c'est que on n'est plus dans du blabla, on ne peut pas promettre n'importe quoi. La seule chose qu'on peut promettre, c'est d'avoir d'utiliser la démarche la plus précise au niveau scientifique, d'essayer d'avoir la qualité d'information la meilleure, mais on ne peut pas promettre que cette information-là va faire gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. On peut juste promettre d'être quelqu'un de sérieux, de faire quelque chose de sérieux, et peut-être qu'on trouvera des moyens de rendre l'entreprise plus efficace, de rendre l'entreprise plus agréable aussi pour les employés, Mais peut-être que on trouvera pas de moyens ou pas des moyens qui sont au niveau des espérances que peuvent avoir les managers.
Ah, merci.
Mais merci à toi.
Pour ton honnêteté, ça fait du bien.
Juste une chose sur ça, c'est juste, je parle avec des consultants, je parle avec des chercheurs, il y a vraiment une très grande différence. Hier soir, j'avais une petite soirée, une cheese and wild party avec des chercheurs à Rotterdam, où je suis actuellement, pour quelques jours. Et vraiment, c'est lorsqu'on parle de le fait de comment dire, de lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien, les chiffres, ils disent pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Et au départ, il y a quelques années, ça m'avait chagriné. Et maintenant, je trouve que c'est quelque chose d'une certaine manière d'un petit peu réjouissant, parce que ça pousse à aller vers un niveau d'excellence toujours plus haut.
Je passe à la question suivante. Quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement, hormis celle dont on vient de parler, bien sûr?
Alors, quel outil? Moi, j'allais te dire les statistiques.
Ah
Donc,
non, c'est trop proche. Non, non.
les statistiques, ça marche pas.
Non. Ah non, c'est à la base de l'analytique RH. Non, on me la fait pas.
Quel outil? Je suis pas sûr de répondre de manière juste à ta question, mais si je te dis ma découverte de l'économie du bonheur, est-ce que ça peut
je t'autorise.
Tu m'autorises, voilà. Ça a été avant de découvrir l'économie du bonheur, j'ai fait des études de psycho et d'économie. Je savais pas que l'économie du bonheur ça existait et j'ai découvert ça, je sais plus comment, en 2007. Et ça a été une révélation pour moi parce que ça faisait vraiment le lien entre ce que j'avais appris en psycho et ce que j'avais appris en économie. Le lien, c'est-à-dire qu'en psycho, je me souviens de tout ce qu'il y avait pu voir sur les questions de souffrance au travail. Et en économie, la souffrance au travail était absente des modèles. Et là, le fait de découvrir l'économie du bonheur, je voyais un champ de l'économie qui prenait en compte aussi, alors pas simplement la souffrance, hein, puisque l'économie du bonheur, on regarde pas simplement les émotions négatives, on regarde aussi les émotions positives et le contentement. Mais ça a été vraiment une révélation lorsque j'ai vu ce champ-là de recherche qui existait pourtant. C'est un champ de recherche qui existe, l'article séminal, c'est 1974, donc ça existe. J'ai découvert ça, ça fait quand même 33 ans que ça existait. Mais en France, ça existait quasiment pas.
Ok. Troisième question. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Waouh, ça c'est...
Ah oui.
Parce qu'en fait là c'est choisir. Moi ce que je comment dire, si je devais répondre à ça, je dirais ben voilà, on va dans une entreprise, on fait une étude d'analytique RH et on aura une réponse, pas forcément pour l'entreprise.
Oh non, alors j'aurais tout vu. On m'a dit non, il y en a 15 des qualités, on a tout essayé, mais alors celle-là.
si tu me demandes moi la qualité qui moi personnellement me semble la plus importante, c'est-à-dire sans approche scientifique derrière, juste mon ressenti, je te dirais l'empathie, la capacité de comprendre. Ce que peut ressentir l'autre. Et c'est compliqué de comprendre ce que peut ressentir une autre personne.
Alors, je suis étonnée de l'empathie. Comment tu fais le lien, par exemple, entre l'empathie et l'analytique RH?
Alors, j'ai jamais réalisé d'études sur l'empathie d'analytique RH avec l'empathie.
Tout passe par les études avec toi.
Voilà.
C'est très drôle.
Oui. Comment dire, en France, les gens qui font de la recherche sont pas forcément super bien vus. Les gens qui font des doctorats ou qui ont des doctorats sont pas forcément bien vus. C'est un des rares pays au monde où c'est comme ça. C'est-à-dire que si on va en Allemagne, si on va aux Pays-Bas, le simple fait de dire qu'on est docteur ou voire simplement doctorant, ça a un vrai impact sur les gens parce que c'est quelque chose qui est considéré. Et alors qu'en France, bon, bah, ce qu'on
alors,
considère...
Alors, sache que moi, je le considère avec respect, parce que j'ai beaucoup d'amis doctorants, je vois le travail que ça représente et l'abnégation que ça demande. Et donc, sache que ici, tu es tout à fait respecté et moi, j'ai conscience de ce que ça représente. Est-ce qu'il y a un livre que tu nous conseillerais à la lecture qui t'a particulièrement inspiré ces derniers temps ?
Il y a un livre, alors c'est un livre que j'ai lu il y a... Il y a quelques années. Alors, je me souviens plus exactement du titre, mais c'est sur le bonheur et les politiques publiques. Et c'est un livre.
Ah, c'est un Italien qui l'a écrit.
Non, c'est Ed Diener et il y a Ed Diener, il y a je crois Lucas et Eliwell qui ont participé. Je sais plus si c'est Subjective Wellbeing for Happiness for Public Policies ou Happiness for Policies, mais si tu me demandes un livre, je te dirai celui-là. Mais ça n'a rien à voir avec l'analytique RH et ça n'a rien à voir avec le bonheur au travail et la performance.
Et l'empathie.
Voilà.
ok, et on finira avec une citation. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ?
Je vais dire une phrase que j'aime bien. C'est un monde plus heureux ouvre sur un monde meilleur. C'est vraiment une phrase qui pour moi est fondamentale.
Ok. Un grand merci Renaud pour cette exploration. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Si on veut te contacter, on contacte comment ?
En tapant Renaud Gaucher sur Google. On va, je pense, tomber. J'ai un site perso.
Ah, que je mettrai aussi dans la description du podcast. Donc, on peut le trouver dans la description.
Voilà, je suis sur LinkedIn aussi. Donc, si on tape Renaud Gaucher sur LinkedIn, on va se trouver sans doute plusieurs Renaud Gaucher, mais pas tant que ça. sans doute qu'il y en a un qu'on voit dans l'intitulé qui parle de bonheur analytique RH. Donc, ça doit être celui-là.
Merci de nous avoir donné le processus pour arriver jusqu'à toi. Un grand merci pour ton temps et ta franchise, ton honnêteté, c'est étonnant. Parce que des fois, on est là aussi pour promouvoir ce qu'on fait et j'ai été vraiment étonnée et surprise de ta franchise.
Ah mais être franc, c'est promouvoir pour moi.
Ouais.
Ça me semblait bizarre. Mais moi, ce que j'aime, c'est le lien entre la science et le conseil. C'est-à-dire que je considère que le meilleur moyen de donner le meilleur conseil possible, c'est de le lier avec l'approche scientifique. Et donc, dans l'approche scientifique, des fois, tu as des résultats qui sont ce que tu attends. Et puis des fois, tu as des résultats, c'est pas ce que tu attends. Ça fait partie de la culture scientifique.
Merci beaucoup et je te
merci
souhaite
à toi.
Une très belle semaine.
Merci. Bonne semaine à toi. Belle semaine à toi aussi.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et pour être sûr de recevoir le prochain épisode directement sur votre téléphone, votre ordinateur, il suffit de s'abonner sur iTunes ou bien SoundCloud. Sinon, vous retrouvez toutes les informations qui ont été traitées dans cette émission sur le blog Moodstep, MOODSTEP. Comme je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.